RTL.
J'espérais que ce serait une bonne journée. L'espoir, c'est dangereux.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Si vous échouez, ce sera un massacre.
Si on en parlait deux minutes.
Pourquoi ?
La curiosité est un vilain défaut.
On a l'ordre de traverser ici.
Là, c'est le front allemand.
Tenez bon !
Si on s'y prend mal, personne n'arrivera à rejoindre ton frère.
Extrait de la bande-annonce de 1917 qui sort demain au cinéma. C'est le nouveau film de Sam Mendes. Et c'est déjà 10 nominations aux Oscars. C'est absolument incroyable.
Mm-hmm. Juste derrière Joker, 11 nominations.
Et ça doit être un chef-d'œuvre. Mm-hmm. C'est l'histoire en fait d'une course contre la montre, celle de deux soldats anglais derrière les lignes ennemies pendant la Première Guerre mondiale. Et on a eu envie de replonger dans la vie des tranchées, de connaître le quotidien de ces soldats. Et pour cela, on a fait monter aux avant-postes notre consultant en histoire, Pierre Baron. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Thomas, bonsoir Sidonie.
Et bonne année à vous.
Et bonne année à tout le monde.
Bon, on file tout de suite dans l'autre siècle, un siècle en arrière, dans le bruit et la fureur du quotidien de millions de poilus. Au fait, pourquoi on les appelait comme ça, les poilus ?
Juste avant la guerre, dans le langage populaire un peu familier, le poilu, c'était celui qui était courageux, c'était l'homme viril, on va dire. Et pendant le conflit, comme ils n'avaient pas le temps de se raser, forcément, ils devenaient très vite poilus. Donc, d'ailleurs, c'est amusant parce que les soldats appelaient les gens de l'arrière les épilés. Mais en fait, ça, c'est partiellement vrai, cette histoire.
Pourquoi ? Donc le terme poilu, il a disparu ? Pourquoi c'est partiellement vrai ?
Parce que très vite, il y a eu des gaz de combat qui ont fait leur apparition, en 1915, donc pratiquement un an après le début des hostilités, au printemps. Et les masques à gaz ont vite banni la barbe du visage des soldats.
Pourquoi ?
Ben parce que les poils retiennent ou retenaient les agents toxiques. Du coup, ça gênait le lavage après une attaque. Et donc, il fallait se raser automatiquement parce qu'autrement, il y avait des risques beaucoup plus grands.
Et puis ces poilus, Pierre Baron va continuer de les appeler comme ça, déjà par habitude, mais surtout par respect. Et du respect, ils en imposent, nos poilus. Quand on connaît leurs conditions de vie, c'est ce que vous allez nous faire découvrir maintenant. D'abord, à quoi elles ressemblaient ces tranchées ? Parce qu'on a ce mot comme ça dans l'oreille, mais on ne sait pas, nous, vraiment, physiquement, à quoi ça ressemblait.
Les tranchées, c'est des couloirs souterrains, assez étroits, qui sont creusés sur environ 3 mètres de profondeur. En général, ils sont consolidés par des sacs de sable, des grosses branches, des barbelés. Et pour éviter les tirs en enfilade, eh ben on les a construits en zigzag, ce qui évite évidemment une rafale qui tuerait toute la lignée. Mmh. Et entre les deux tranchées ennemies, il y avait ce qu'on appelle le no man's land.
Et c'est là que se déroulaient les combats.
Exactement.
Dans le no man's land.
C'est exactement ça. C'est cet espace que les soldats tentent à chaque fois de franchir pour atteindre la tranchée ennemie. C'est là, à chaque assaut, tous les jours, que l'hécatombe se produit. Quand les soldats montent à l'assaut en quittant leur tranchée, du moins celles situées en première ligne. Les tranchées de combat.
Parce qu'il y a d'autres types de tranchées qui sont quoi ? Qui sont derrière, quelques dizaines ou centaines de mètres à l'arrière ?
Exactement. En fait, il y en a deux autres en plus. Il y en a un peu plus loin, derrière la première ligne, il y a les tranchées de doublement qui servent à s'abriter juste avant d'attaquer. Mmh. Et enfin, à 150 ou 200 mètres de la première ligne, on a les tranchées de réserve qui servent de zone de stockage pour les munitions, les provisions, le matériel. Et ça sert aussi aux soldats pour se reposer.
Pierre Baron, ils sont relevés, ces soldats ? Est-ce qu'ils ont des temps de pause et même des permissions ?
Ça dépend de l'intensité des combats, cette affaire. En moyenne, ça correspond à un mois entre deux relèves pour une période de repos qui va de plusieurs heures à plusieurs jours. Là, les soldats ont le droit, si j'ose dire, de manger chaud à leur faim et de dormir au sec. Les poilus appelaient ça, cette espèce de roulement, le tourniquet.
Et en 4 ans de guerre, ils ont eu combien de permissions si on devait faire une moyenne pour ces soldats ?
C'est dérisoire, je crois que le calcul a été fait par les historiens spécialistes, ça ne représente même pas un mois et demi, c'est juste dérisoire et honteux, quoi, quelque part.
Si on imagine une journée d'un poilu, d'un soldat de la Première Guerre mondiale, ça ressemble à quoi, cet enfer ?
On va s'imaginer que vous viviez, que les gens qui nous écoutent, qu'on vive la peur au ventre 24 heures sur 24, qu'on ait la pluie, qu'on ait la boue, qu'on se retrouve avec un manque d'hygiène tellement effroyable que tout le monde, mais alors rigoureusement tout le monde est couvert de poux, que bien évidemment il y a des carences alimentaires énormes, que ça donne lieu à des épidémies graves comme le scorbut. Voilà, la peur au ventre, la mort tous les jours, la boue, la saleté, c'est ça les tranchées, c'est ça 14-18 du matin au soir.
Et c'est aussi de l'alcool, des rations d'alcool qui augmentent les années de guerre passant, un paradis artificiel et des soldats tués à petit feu de l'intérieur. Le récit, terrible tout de suite sur RTL. Reste avec nous les curieux.
Est-ce que vous vous sentez bien, soldat ?
Il a été commotionné, mon général.
Dites pas de sottises, sergent. Être commotionné, ça n'existe pas.
La curiosité est un vilain défaut.
Avez-vous une femme, soldat?
Oui, j'ai une femme. Jamais je ne la reverrai.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Je vais te tuer.
Allons, un peu de cran, vous vous conduisez comme un lâche.
Je suis un lâche, moi.
Secouez-vous, soldat.
Sur RTL.
Sergent, veillez à donner des ordres pour débarrasser mon régiment de cette boule mouillée.
Extrait du film Les Sentiers de la Gloire, 1975, film signé Stanley Kubrick, et on découvre la vie dans les tranchées avec notre consultant en histoire, Pierre Baron. C'est à l'occasion de la sortie du film de Sam Mendes, 1917. C'était quoi le principal réconfort du soldat pendant cette Première Guerre mondiale, Pierre Baron?
La nourriture, celle qui arrivait tous les jours par colis envoyés par les familles. Bon, il y avait quelques vêtements, mais l'essentiel, c'était surtout des saucissons, des jambons, du pays locaux, quoi, de la pâtée, des rillettes, des confits, tout ça préparé à la ferme, ou même il y avait des pâtisseries, il y avait aussi des gâteaux. En général, tous ces cadeaux, on va dire, les poilus le partageaient avec leurs frères d'armes.
Oui, mais pourquoi? Parce que ce qu'on leur proposait à manger, c'était dégueulasse?
Oui, on peut dire ça clairement, c'était franchement dégueulasse.
Ouais.
C'était à la limite du mangeable. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, les cuisines sont à l'arrière. Donc, quand ça arrive, les hommes qui partent avec des bidons, le temps qu'ils reviennent, de toute façon, c'est froid. Déjà, c'est première chose. En plus, les rations sont beaucoup trop faibles. Ils ont 300 grammes de biscuits par jour, ils ont 300 grammes de féculents. Enfin, c'est dérisoire. Ils ont 100 grammes de légumes secs. C'est évident qu'avec si peu à manger, ils attrapent des carences alimentaires monstrueuses.
L'eau est rationnée aussi pour ces soldats de cette Première Guerre mondiale dans les tranchées, Pierre Baron?
Non, mais elle n'est pas propre. Donc,
elle véhicule des maladies?
Oui. Donc, pour la purifier, il faut jeter des pastilles ou la faire bouillir, parce que sinon, c'est reparti pour un tour. Quoi. Dysenterie et autres.
Ouais. Et l'alcool, Sidonie, juste avant qu'on écoute Florent Pagny, disait l'alcool dont les rations vont augmenter année après année.
Au début du conflit, en 1914, chaque soldat reçoit un quart de litre de vin.
Oui.
Par jour?
Ouais. Ouais. 2 ans plus tard, en 1916, la ration passe à un demi-litre. Et en 1918, c'est 1 litre par combattant. Voilà. C'est pas compliqué, ça double tous les 2 ans.
C'est pour anesthésier les soldats? C'est pour les aider à supporter?
On
n'est pas fini.
Oui, il y a l'agneau aussi. Il y a le vin plus l'eau de vie que les soldats peuvent aussi acheter, mais avec leur propre denier, dans les cantines à l'arrière. Donc voilà, l'alcool ne cesse d'augmenter, en même temps que la peur, la mort, le froid, tout ce que vous voulez.
On essaye de se mettre dans la peau, et c'est leur rendre hommage d'ailleurs, de faire ça, de ces soldats de cette Première Guerre mondiale dans les tranchées. Ils dorment, ils mangent dans les tranchées, ils dorment dans les tranchées. C'est quoi dormir dans des tranchées?
Ouh là là, c'est essayer de trouver quelques moments de répit, parce que c'est jamais simple. D'abord parce que c'est humide, parce que c'est insalubre, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un tireur d'élite adverse, donc il faut vraiment y aller tranquille.
Il n'y a pas de couchette, on dort dans son paletot, enfin c'est comment?
Ah oui, on dort où on peut, on dort assis des fois. Il y a des tranchées qui comportent des étages. Dans le film de Mendes, on le voit, et c'est extrêmement bien reconstitué.
Il y a les rats aussi,
oui, bien sûr, ça fourmille, si j'ose dire, de rapis. Bon, dans le meilleur des cas, vous avez des paillasses, vous avez des matelas fins, ils sont couverts, effectivement, de rongeurs ou d'insectes, mais voilà.
Et aujourd'hui, il y a un terme qu'on emploie pour les soldats qui sont engagés dans des fonds, que ce soit français ou américains, c'est le syndrome post-traumatique. Est-ce qu'on peut dire que ça apparaît d'une certaine façon, en tout cas qu'on le repère à ce moment-là, pendant la Première Guerre mondiale?
Historiquement, c'est la première fois que ça arrive, ça. Ouais. Effectivement, dans l'histoire, ce syndrome-là, c'est quoi? C'est des tremblements incessants, comme on peut le voir, y compris sur les soldats qui reviennent de théâtre d'opération aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Incapacité à se tenir debout, des crises de terreur, des cauchemars épouvantables. Par exemple, vous pouvez montrer un objet qui leur rappelle la vie du front, et aussitôt, le pauvre type rentre dans une psychose abominable. Voilà. C'est ça, le syndrome post-traumatique, ça a un siècle déjà.
Elle ressemblait à quoi? Qu'est-ce qu'ils ressentaient, les soldats, pendant la nuit dans les tranchées de cette Première Guerre mondiale?
La nuit, contrairement à ce qu'on peut penser, Sidonie, c'est pas une période de calme, c'est même le contraire. Parce que c'est là que tout s'anime dans la journée. À part le combat au petit matin, il se passe pas grand-chose. Mais la nuit, on en profite, parce qu'il y a l'obscurité. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va transporter les munitions, on va essayer justement les rations, les provisions à l'arrière. Et puis, on a tout un dédale de couloirs. On se dit qu'on sera moins tiré comme des lapins parce qu'il fait nuit. Donc, il y a beaucoup d'agitation et il y a beaucoup de peur la nuit. Beaucoup de peur de tireurs isolés.
Et Pierre Baron, dans cet enfer, eh ben, les hommes, ils trouvaient le temps d'avoir de l'humour. Vous avez découvert des exemplaires d'un journal qui n'était évidemment pas officiel. Ça s'appelait La vie poilusienne. On va vous raconter ça, découvrir certains numéros dans un court instant sur RTL. Restez avec nous, les curieux.
Putain, ceux qui n'ont pas connu ça ne peuvent pas savoir ce que c'est.
RTL.
Les gens molles qui ne répondent plus, le cœur qui cogne comme une bête affolée prise au piège.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il faut attaquer avant de se faire saigner.
Baïonnette au canon ! Baïonnette au canon ! Baïonnette au canon !
Le soir, il y avait triple ration de soupe pour tout le monde, vu que j'avais prévu pour tout un régiment.
La curiosité est un vilain défaut.
Là, comment ça se fait que les 5 condamnés apparaissent comme des soldats du bataillon maintenant ? On a reçu les ordres.
Extrait d'un long dimanche de fiançailles, film de Jean-Pierre Jeunet avec Albert Dupontel qui incarne un soldat de cette terrible Première Guerre mondiale qui raconte l'enfer des tranchées, l'enfer de la guerre. C'est ce qu'on raconte aussi avec vous, Pierre Baron. Vous êtes notre consultant en histoire et c'est vrai que vous nous décrivez des moments de terreur, le froid, la peur, la violence évidemment, l'inconfort permanent dans ces tranchées. Et quand même, puisque ça reste des humains, des moments d'humour. Comment il peut y avoir de l'humour dans ces tranchées ? Comment il s'incarne cet humour ?
C'est assez étonnant parce que, compte tenu de la situation, déjà on a du mal à imaginer que ces gens aient pu créer, publier pratiquement 500 journaux, 480 entre 1914 et 1918. Hein. Donc des journaux amateurs, illustrés, imprimés depuis le front. Par les soldats.
Et donc, ça s'appelait notamment La vie poilusienne.
Ouais. Alors, clin d'œil évident, bien sûr, La vie parisienne.
Oui, c'est
pastiche, très drôle. Évident.
Et avec l'un des compagnons des soldats et des poilus, évidemment, on a nommé.
Le Pou.
Les Poux. Alors, qu'est-ce qu'ils racontent sur les Poux dans La vie poilusienne?
C'est très beau. Moi, je trouve que c'est un humour, enfin, quand on voit leurs conditions de vie. Mmh. Voilà ce qu'il dit, je cite: Le Pou est brave. Vous le trouvez en première ligne dans la chemise du poilu. D'une témérité folle, il monte à l'assaut, entre parfois le premier dans la tranchée ennemie, résiste sans broncher aux bombardements les plus furieux. Le Pou est bon citoyen, il suit le principe croiser et multiplier, et même en première ligne, il remplit ses devoirs de soldat à la perfection.
Mais
étonnant.
Comment ils étaient construits, écrits, à quel moment, par qui, et comment ils étaient publiés, ces journaux des tranchées, Pierre Baron?
Ils étaient publiés, alors ils étaient rédigés et imprimés entre deux assauts, ça va sans dire, par les soldats eux-mêmes. Souvent, j'ai un peu creusé cette affaire, c'est souvent des sous-officiers ou des officiers. Il y a très peu d'hommes de troupe. Et pourtant, l'humour reste présent partout. Des fois même là où on ne l'attend pas.
Et on y voit la réalité de la guerre. Pourquoi on ne la trouve pas ailleurs ?
La réalité de la guerre, vaut mieux laisser parler les poilus, effectivement, Thomas, parce que comme il y a de la censure partout, les militaires laissent publier ce qu'ils veulent qu'on sache. Et donc, la censure, elle est politique, elle est militaire, d'abord, le courrier est censuré. Donc, de toute façon, à l'arrière, on sait que ce qu'on veut bien laisser croire.
Ça veut dire que la vraie, je mets des guillemets, presse, les journaux de l'époque...
Totalement sous contrôle.
D'accord.
Totalement sous contrôle.
Est-ce que c'est vrai que le canard enchaîné naît à cette période ?
Absolument, c'est exactement ça, la deuxième année du conflit. Le canard enchaîné, qui a lui aussi cette tripe et cette veine satiriste, dès le moment, a été lancé justement pour éviter... La fausse presse, enfin, qui était la vraie presse, c'est-à-dire la presse qui donnait que des bonnes nouvelles. Quoi.
Pierre Baron, vous nous avez dit plus de 500 journaux publiés par les poilus et leurs officiers pendant cette Première Guerre mondiale. Et on y trouve des trésors de courage et de dignité. Il y a par exemple un journal qui est rédigé par les Gueules Cassées.
Oui, directement du premier étage du Val-de-Grâce. C'est là qu'on soignait tous les gens qui étaient défigurés du visage. C'était abominable et ils ont inventé un journal. J'ai trouvé c'est extraordinaire, qui s'appelle La Greffe Générale. Et bon, faut quand même le faire quand on sait qu'on n'a plus de visage. Et ils avaient une devise qui était, j'ai trouvé ça très émouvant quand j'ai eu le numéro 1 sous les mains, qui s'appelle Rire quand même. Je trouve ça magnifique.
L'organe des mutilés de la face, vous nous avez dit aussi,
étonnant.
Pierre Baron.
Et ça donne envie de relire le roman de
Au revoir là-haut.
Pierre Lemaitre. Ben, Au revoir là-haut. Pierre Lemaitre qui vient de sortir le numéro 3 de ce qui est finalement une trilogie.
Vous l'avez lu d'ailleurs ?
Je l'ai sur ma table de chevet, je le commence ce soir, figurez-vous, juste après l'émission. Autre lumière dans ces ténèbres, Pierre Baron, les femmes, elles vont s'inviter dans les tranchées. Mais alors comment ?
Par le phénomène de ce qu'on appelle les marraines de guerre.
Ouais.
Au départ, ce sont des associations charitables, catholiques, paroissiales, des bonnes dames, qui disent que quand même c'est un peu triste, les poilus qui reçoivent jamais rien, ils n'ont pas de courrier, ils n'ont pas de famille, donc ils n'ont pas de colis. Alors à ces gens, on va proposer, via les petites annonces, mais cette fois-ci de la vraie presse, de s'inscrire pour avoir une marraine, une correspondante de guerre. Et cette marraine de guerre, elle va faire en sorte que justement le poilu, bah, il ne reste pas tout seul, sans jamais rien recevoir.
Est-ce qu'il y a eu des histoires d'amour aussi, Pierre Baron ? Des marraines de poilus qui ont trouvé l'amour ?
Oui, je vais vous décevoir, il y en a eu, mais assez peu. En fait, c'était une bonne occasion pour recevoir et avoir quelque chose en plus à manger. Ouais. Mais ce qui est assez étonnant, en plus, des histoires d'amour, oui, Sidonie, mais c'est, vous savez, on trouve de tout dans les marraines de guerre. C'est comme à la Samaritaine. Vous avez une petite fille de 12 ans et vous avez la grand-mère. Oui. Donc, ce n'est pas nécessairement une histoire d'amour. C'est simplement un peu moins de solitude et une espèce d'un peu de moins de brutalité avec une espèce de contact féminin et un peu de féminité dans un monde de brutes. Peut-être que c'est cela dont ils avaient plus besoin que des histoires d'amour. Quoi.
Pierre Baron, 10 nominations aux Oscars de la curiosité.
Non, c'est pas moi les nominations.
Merci pour ce récit magnifique et à très bientôt dans notre curiosité.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.